Le petit déjeuner de Patrick Ferlat sur Radio Suisse Romande de la Première.
Madame, Monsieur, bonjour. Cannes, c'est fini. Deux palmes pour saluer, vous le savez, les œuvres filmiques d'Emir Kusturica, de Theo Angelopoulos. Le siècle commence et se termine à Sarajevo. Deux films qui, pour ainsi dire, volent au secours de la conscience du monde, comme l'avait fait un grand savant français qui, à l'ouverture de ce 48e festival de Cannes, a pris la fuite. C'est à Henri Laborie que nous voulons rendre hommage ce matin. Henri Laborie qui avait inspiré le film d'Alain René, Mon oncle d'Amérique, film qui obtint le grand prix du jury à Cannes. Voici 15 ans, Henri Laborie, une vingtaine d'ouvrages, dont L'éloge de la fuite, Dieu ne joue pas au dé, dernier paru chez Flammarion, La légende des comportements. Ce biologiste français fut, rappelons-le, l'un des rarissimes lauréats européens du prix Albert Lasker, l'équivalent américain du Nobel. Cinéma, neurobiologie, voici Henri Laborie tel que nous l'avions accueilli au petit déjeuner et dont la vie fut pour emprunter à Alain René encore le titre de l'un de ses films, un roman. Henri Laborie, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints donc ce matin. 50 minutes environ de rencontre découverte avec vous qui, de passage à Lausanne, animez actuellement un séminaire sur le thème, nous en reparlerons peut-être un peu ce matin ensemble, approche biosociologique du comportement humain. Henri Laborie, vous êtes tout à la fois chercheur et biologiste. On vous doit la mise au point d'un certain nombre de médicaments. Vous fûtes notamment celui qui, pour la première fois, introduit en thérapeutique la chlorpromazine, soit le premier tranquillisant, le premier neuroleptique. Vous avez également travaillé sur ce qu'on appelle l'hibernation artificielle, nous en reparlerons tout à l'heure. Mais pour aller vite et surtout pour vous laisser la parole, j'ajouterais peut-être, Henri Laborie, que ce qui n'a cessé de vous interroger tout au long de votre vie de chercheur et d'homme, ce sont d'abord et avant tout précisément les comportements humains. Une précision encore, la poésie, la peinture, le sport, la voile notamment, je crois, occupent dans votre vie des places de choix ou de rêve, cela vous nous le direz ce matin. Enfin, en 1979, avec le cinéaste français Alain René, vous preniez part à un film Palme d'Or à Cannes. Cette année-là, c'est Mon oncle d'Amérique. D'aucuns, vous vous en souvenez sans doute, Henri Laborie, à l'époque, vous reprochèrent, bien sottement à dire vrai, d'avoir pris l'homme pour un rat. Ce à quoi vous répondit alors, ce qui distingue un homme d'un rat, c'est l'imagination. Mais, ajoutiez-vous, il ne s'en sert pas. Est-ce que 10 ans plus tard, vous avez peut-être changé d'avis ?
Ah non. Non, je n'ai pas changé d'avis, parce que cet avis est basé sur une connaissance biochimique et neurophysiologique, c'est-à-dire de la façon dont est fait un cerveau humain, dont il fonctionne. Alors, évidemment, je sais aussi ce que c'est qu'un cerveau de rat, je sais ce qu'il lui manque pour être un cerveau d'homme. Donc, je ne changerai pas, étant donné que ce qui caractérise un cerveau d'homme, c'est ce qu'on appelle des lobes orbitaux frontaux, qui sont derrière notre front droit, des milliards de cellules, de neurones, qui nous permettent d'imaginer. Le processus imaginaire n'est pas un mot, c'est un mécanisme qu'on arrive même à, non pas à contrôler, mais sur lequel on arrive à jouer, si vous voulez. Si bien que le reproche qu'on a fait, d'ailleurs, pour les scientifiques, était un reproche. On n'a pas reproché mon discours, mais on a dit, ah, il est béhavioriste. Or, le béhavioriste, c'est-à-dire les gens qui s'occupent du comportement, animal et humain d'ailleurs, a eu sa période de gloire, et puis actuellement il est tombé un peu en désuétude. Et c'était, en fait, être biavuriste, c'était pas un compliment. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez faire au cinéma si ce n'est pas du béhaviorisme? Le cinéma ne peut faire que montrer que des comportements. Il ne va pas faire de la biochimie, de la neurophysiologie cérébrale, donc c'était une approche idiot, si j'ose dire, parce que le cinéma, et ça m'a appris beaucoup de choses, justement, ce film, ça m'a appris que l'audiovisuel ne peut pas exprimer un concept abstrait. Il faut la lecture, et la lecture est indispensable, et beaucoup d'images du film de René ne sont compréhensibles que quand on a lu mes livres. Sans ça, on n'y comprend rien. On dit, tiens, c'est marrant, c'est drôle, on croit que c'est surréaliste, mais le fait de mettre des têtes de rat à ces acteurs, pour moi, ça ne m'a pas... Bon, ça l'a amusé, René, qui m'avait lu, qui me connaissait par cœur. Enfin, par cœur, hein, oui, c'est un peu trop dire, mais enfin, qui m'avait bien lu. Et je n'étais pas tellement d'accord pour les têtes de rat. Mais il y a beaucoup d'autres images, ne serait-ce que la dernière, qui est tout le film, elle n'a pas été comprise si on n'a pas lu mes livres. Donc, déjà, j'ai appris une chose en participant à ce film, c'est que, je le répète, l'audiovisuel vous touche à la tripe, il touche à l'affectivité, c'est sa force, mais qu'il est incapable d'exprimer un concept abstrait.
Et comment avez-vous rencontré Alain René ?
Oh, c'est une histoire assez drôle. Il y avait une firme allemande qui voulait que je fasse un film sur la mémoire. Puis moi, ça fait... j'aime bien les molécules que je trouve, j'en ai trouvé un certain nombre, mais celles des autres, faire un film pour qu'ils vendent leurs pilules, ça m'enthousiasmait pas. Alors j'ai dit non, puis alors ils sont revenus à la charge plusieurs fois, et puis finalement je me suis dit, pour m'en débarrasser, j'ai dit bon bah écoutez, d'accord, je vous fais un film sur la mémoire, mais je vais le faire avec le seul type capable de parler de la mémoire, parce que j'avais vu l'année dernière Marion Bad, qui est un film sur la mémoire, mais très élaboré. Je le fais avec Alain René. Alors, ils ont été chercher Alain René, et qui est arrivé au laboratoire en me disant, en passant la porte du labo, il m'a dit, je ne veux pas faire un film sur la mémoire. Je viens parce que j'avais, de toute façon, je serais venu vous voir, il y a longtemps que je voulais venir vous voir, j'ai lu un certain nombre de vos livres. J'ai deux productions, j'ai une production qui se veut scientifique, et qui est difficile à comprendre si on n'est pas initié. Et puis une production que je n'ai pas vulgarise la vulgarisation, parce que ça vulgarise aussi bien l'auteur que le lecteur. Et que vulgaire, ça veut dire, bon, c'est assez péjoratif. Donc vulgarisation, j'aime pas ce terme. Mais je dis de grande diffusion, c'est-à-dire des livres qui sont compréhensibles par tout le monde. Il avait lu cela, mais à partir de ce moment-là, il avait été un peu plus loin. Il a eu des livres un peu difficiles, plus difficiles du moins. Et il m'a dit, ben voilà, j'étais mal dans ma peau, j'étais dépressif. Et le lecteur de vos livres m'a donné une nouvelle notion de moi-même, une nouvelle notion des autres, et j'ai l'impression que mes rapports avec les autres a changé. Je suis mieux dans ma peau et je ne veux pas conserver ça pour moi. Je voudrais qu'on fasse un film ensemble. C'est comme ça que j'ai connu Alain René. Dès le premier jour, je lui ai dit, vous savez, moi, les tranches de vie dans les films, ça ne m'enthousiasme pas, parce que j'ai qu'à prendre le métro et regarder la tête de mes contemporains, c'est les tranches de vie pour moi, j'essaie de comprendre. Quel est le mari trompé, quel est l'ouvrier remercié par son patron, etc. Il y a des tranches de vie partout quand on veut jeter un œil scrutateur sur la tête de ses contemporains, et le comportement de ses contemporains, tout le corps, toute la façon dont ils marchent. Elle me dit, ben oui, mais sans tranche de vie, comme vous appelez ça, parce que tout le monde s'est moqué de moi ensuite dans l'équipe, sur le terme de tranche de vie, sans tranche de vie, on n'intéressera personne, il faut des tranches de vie. Et ça s'est fait comme ça, dans une façon... Bon, des génies comme René, c'est facile à vivre. Qui est curieux, vous voyez, j'ai pas revu René depuis cette époque-là, depuis 81. Bon, il a considéré sans doute qu'il avait tiré de moi un essentiel, et finalement, il a vécu vraiment avec moi, avec mes écrits. Il enregistrait dès que je passais à la radio ou à la télé, il enregistrait tout, et sa femme qui est Florence Malraux, fille de Malraux, disait, moi je sais plus avec qui je couche, si c'est avec René ou Laborie, hein, parce que il est tellement plein de Laborie que il n'y a plus que ça.
Tout de même, vous êtes un peu triste de ne pas l'avoir revu.
Oui, non, je pense, vous savez, j'ai peut-être mon meilleur ami de toute ma vie. Je le vois jamais. Et je suis sûr que, je ne sais pas pour René, mais cet ami-là, je suis sûr qu'il pense à moi comme je pense à lui, pas tous les jours, mais presque. Il y a des moments où il n'y a plus besoin de se voir, plus besoin de communiquer. Hein, il y a une... Et puis, on peut être déçu. Chacun évolue. J'ai des amis d'enfance que j'aime beaucoup. J'ai connu à 12 ans, où il n'y a pas eu de compétition entre nous. Ils ont pris des orientations différentes dans leur métier. C'est les seuls amis, vraiment, que j'ai. On se revoit toujours, ceux-là. Je les revois régulièrement. Mais ils sont mariés, ils ont évolué différemment, nous ne sommes plus les mêmes, et on a beau se taper dans le dos en disant, tu te souviens, quand on était à Carnot, pour tel professeur, etc. Bon, il manque quelque chose. il manque quelque chose, d'abord notre jeunesse. Et nous vivons sur des souvenirs. C'est pas drôle de vivre sur des souvenirs. Nous vivons sur ce que nous étions à 12, 14, 20 ans, puis ensuite 30 ans, 40 ans. Il n'y a que la guerre qui nous a séparés pendant quelque temps. Et finalement, on se voit vieillir. Et l'amitié, c'est quelque chose qui doit être en dehors du temps. Malheureusement, comme elle se fixe sur un être, et que cet être, vous aussi, vous changez, lui aussi change, c'est très difficile. Il reste quelque chose qui est du domaine de la peau, de l'odeur, je ne sais pas de quoi, mais enfin, bien sûr. Mais sans ça, pour le reste, sur le plan, je dirais, idéologique, du moins des idées, pas idéologique, des idées, c'est très difficile d'avoir une amitié stable sur les idées. Il y a une amitié stable sur les souvenirs, sur quelque chose qui fait que vous êtes bien avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et il y a des gens avec lesquels vous sentez bien, alors sur la biologie du comportement, il y aurait beaucoup à dire. Là, ça, pourquoi est-on bien avec quelqu'un? Pourquoi est-on mal? Pourquoi il y a des gens qui... Leur tête vous revient tout de suite, pourquoi d'autres? Bon, on se met au recul. Ça, même les psychanalystes ne vous diront pas grand-chose sur la question.
On va essayer quand même un peu ce matin de le faire ensemble. Oui. Vous prenez le petit déjeuner?
Oui. Ben, vous permettez
Oui, du café, tout ça.
Café, lait, croissant et un verre de jus de fruits.
Volontiers.
On a besoin de s'hydrater.
Et une première musique, Jane Birkin.
Le moi et le je. Si je balance entre les moi et le je, c'est que mon propre équilibre mental en est l'enjeu. J'ignore tout des règles de ce jeu cruel et tendre à la fois entre le le jeu. On se perd de vue, tout est remis en jeu. Dans la froideur de la nuit, je me demande où suis-je. Tu me prends, je me laisse prendre au jeu de sur toi, moi, je.
Jane Birkin à l'instant, le moi et le jeu, les musiques d'Anne-Marie Rec ce matin. Marcel Horner avec nous en régie et petit déjeuner avec la compagnie, je vous le rappelle, d'Henri Laborie, chercheur, biologiste, humaniste, et j'ai envie de dire, ça ramasse, enfin le terme je crois est bien parce qu'il ramasse beaucoup de ce que vous êtes. 75 ans le 21 novembre, Henri Laborie.
Est-ce vous que... vous cacher, et je ne le cache pas d'ailleurs.
Ce 21 novembre prochain, sera-ce pour vous un jour comme les autres ?
Oui, comme tous les anniversaires, je trouve que c'est un jour comme un autre, un anniversaire. Ça veut dire que on a divisé le temps, et le temps, bah, je ne dirais pas que c'est de l'argent, parce que je ne sais pas ce que c'est que d'en gagner, mais enfin, le temps, ça dépend des activités de votre métabolisme. Un enfant a un temps très long. Souvenez-vous de votre enfance, les vacances c'était long, puis pour y arriver c'était long aussi, tout était long, parce que vous aviez un métabolisme très actif, et quand vous mettez des animaux sous l'action de certaines molécules qui ralentissent leur métabolisme, elles ont une notion du temps qui est beaucoup plus rapide, et quand on vieillit, le métabolisme se réduit, et le temps passe avec une rapidité épouvantable. Alors si vous essayez de vivre dans un style ralenti du point de vue de votre métabolisme ou de récupérer, il y a 36 façons, c'est toute une science, dirais-je. À ce moment-là, bah, vous vieillissez peut-être moins vite, c'est possible. Et de toute façon, vieillir, qu'est-ce qu'on appelle vieillir ? C'est être engrammé dans son système nerveux avec des jugements de valeur, des préjugés, des lieux communs que vous traînez et qui vous emprisonnent comme dans les murs d'une prison, dans les barreaux d'une prison. Si vous avez compris ça, ben, vous essayez de ne pas rester enfermé dans vos jugements de valeur et vous conservez un esprit jeune. C'est la chose la plus importante pour un homme, pour une femme, un homme avec un grand H. On dit souvent qu'un homme ne peut plus rien créer à partir de 35 ans, parce qu'il reste entièrement ou il est complètement perdu par sa réussite. Et à ce moment-là, avec le principe de Peter, on lui fait gravir des échelons, il arrive à un moment donné où il arrive à son principe d'inefficacité. Et ou alors, il reste enfermé dans les conceptions qu'il a utilisées pour sa découverte. Et à ce moment-là, effectivement, il ne trouvera plus rien, mais s'il reste complètement ouvert, sans arrêt, à mettre un regard soupçonneux sur tout ce qu'on lui dit est une vérité, il n'y a pas de raison qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui, à un âge avancé, ont encore été des grands créateurs, je ne parle pas simplement littéraires, comme Victor Hugo, mais comme Einstein ou bien d'autres. Donc finalement, la jeunesse, c'est quelque chose de très relatif, c'est relatif à la conception que vous avez du monde, que vous portez en vous. Et c'est pas lié simplement au nombre des années. Les années, c'est une chose, bien sûr. Je marche moins bien, me fatigue plus vite, je m'essouffle plus vite, et ça, c'est pas agréable. Mais par ailleurs, mon Dieu, je fonctionne encore pas mal sur les autres plans, quels qu'ils soient. J'ai cru à 40 ans que c'était fini, que j'étais devenu un vieillard. Et pratiquement, je n'ai pas tellement bougé dans mon état d'esprit, dans mon comportement depuis l'âge de 40 ans. Parce que, d'abord, je ne me suis pas arrêté de travailler intellectuellement. Et que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'éloge de la fuite. J'ai fui toutes les compétitions d'un monde compétitif qui n'est que compétition.
Volontairement ?
Au début, non. Je n'étais pas volontaire. J'ai fui par besoin. Parce que l'agressivité me fatiguait. Mais quand j'ai compris, parce que c'est mon métier qui me l'a appris, c'est pas la psychanalyse où on a un psychiatre psychanalyste qui travaille avec nous depuis 20 ans, mais enfin, c'est toute la biochimie, c'est la neurophysiologie, c'est tout ce fonctionnement du cerveau qu'on commence à comprendre depuis une trentaine d'années, je dirais presque depuis même une trentaine d'années. Et ça m'a fait comprendre des tas de choses. C'est mon métier qui m'a fait découvrir ce que cachait le langage, ce qui animait le langage, et qui m'a fait douter des vérités premières, des vérités, des certitudes admirables, comme aurait dit Jules Magre.
Quel souvenir avez-vous conservé des 5-6 premières années de votre vie ? Vous êtes né à Hanoï, on va le rappeler, dans un continent va très loin d'ici. Et je crois avoir lu quelque part que vous avez gardé de ces années un souvenir complètement éblouissant et lumineux.
Il y a deux choses. Je vous dis des cinq premières années, c'est-à-dire depuis que je suis sorti du ventre de ma mère jusqu'à 5 ans. J'ai expliqué hier après-midi que tant qu'un enfant n'a pas fait son schéma corporel et qu'il est encore dans ce que les psychiatres appellent son moi-tout, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il est limité dans l'espace, et ça c'est un apprentissage qui demande 2 ans à 3 ans, vous ne vous souvenez pas de vos premières années parce que vous ne saviez pas que vous existiez en tant qu'individu, il a fallu que vous l'appreniez progressivement. Et ce n'est qu'à partir du moment où vous avez fait votre schéma corporel, celle du miroir, de Lacan, etc. Et tout ça, ça s'explique sur le plan biochimique, neurophysiologique et comportemental. À ce moment-là, vous découvrez le monde. Vous découvrez d'abord le principe du plaisir de Freud, et puis vous découvrez le principe de réalité, c'est-à-dire que le monde n'est pas plié à vos envies ou à vos désirs si vous servez de votre imaginaire. Envie et désir, ce n'est pas la même chose. Alors, bien sûr, à partir de... Moi, je me souviens, comme tout homme en général, je pense, à partir de 3 ans et demi. Et effectivement, à ce moment-là, mon père était médecin colonial et il est revenu de la guerre en 19, donc j'avais 4 ans. Et nous sommes partis en Guyane française où il est mort, il avait 31 ans et moi j'en avais 5, oui, 5 et demi. Et ce, effectivement, pour un gosse, un voyage à Martinique, Guadeloupe et Guyane, les petits citrons verts, je le raconte dans mon dernier livre d'ailleurs, les petits citrons verts c'est ma madeleine, comme Proust avait sa madeleine, moi j'avais l'odeur du goudron dans les pores. C'est pour moi très... ça ramène des souvenirs très lointains, je me souviens de cette période avec une exactitude presque pathologique, hein. Ça, j'en me souviens presque de chaque instant, et d'un souvenir, ce sont des souvenirs heureux, parce que j'étais avec mon père et ma mère, et ensuite, ma mère n'a jamais pu être la même, elle a perdu son mari à l'âge de 31 ans. Et j'ai été élevé à partir de ce moment-là dans la mémoire de mon père, et j'ai réalisé mon père, je suis passé par la même école, et j'ai fait, puis à 31 ans, j'ai perçu que j'étais plus lui, j'étais plus vieux que lui, et que j'étais moi.
Oui, vous avez écrit un jour, Henri Laborie, « Mon père fut pour moi la plus belle création de mon imaginaire ».
C'est vrai. C'est vrai, parce que je n'ai pas connu. J'ai connu, il a fait 3 ans de guerre, j'ai passé un an avec lui, et ma mère m'en a toujours parlé ensuite jusqu'à mon âge adulte, presque jusqu'à quand j'ai quitté pour l'école de Bordeaux, enfin de Rochefort d'abord, et puis ensuite de Bordeaux, et m'en a parlé pratiquement tous les jours, et elle était restée, elle s'est pas remariée, et là, elle m'a donné une image de mon père que je me suis construite à ce moment avec ce qu'elle disait, avec ce qu'elle racontait de l'Indochine, de la Guyane, de tout ce qu'elle avait passé. J'étais un excellent musicien, elle faisait de la musique, j'ai été baigné dans la musique par elle et avec l'image de mon père, et qui est un très bon violoniste, paraît-il, je ne le sais pas, mais je me suis fait une idée de ce... Il avait fait de l'harmonie, il avait écrit... un opéra qui s'appelait Le rêve de Silver, dont j'en ai encore, je crois que je dois avoir encore le livret à la maison. Et donc, effectivement, j'ai créé un être mythique auquel j'ai essayé de ressembler. Mais grâce à ma mère, c'est ma mère qui m'a fait connaître mon père, puisque je ne l'ai pas connu. Mon chemin était tout tracé, j'étais sur des rails dès le départ, et je n'ai rien eu à choisir, je ne pouvais pas faire autre chose.
Et puis un jour, vous avez choisi chercheur, vous nous direz d'une part pourquoi et surtout ce que cela a changé, d'abord pour vous sans doute, mais également pour nous. La marque une nouvelle pause dans un petit déjeuner avec Henri Laborie, avec une très belle chanson de William Scheller. Son titre, c'est Le Nouveau Monde. Vous croyez à l'avènement d'un nouveau monde, pourquoi d'un monde différent?
Espérons. L'espérance étant une des qualités cardinales.
Vous qui restez si bien de glace, souffrez que mes mots dépassent le peu de raison que je tienne quand vous laissez ma peine en disgrâce. Devant votre indifférence. honte.
Pourquoi j'ai choisi la recherche? J'ai pas choisi là non plus. J'étais chirurgien, j'ai passé des concours puisque fallait passer des concours si on voulait faire un métier intéressant. Et j'étais chirurgien des hôpitaux en 1948. J'étais le plus jeune chirurgien des hôpitaux de la marine d'ailleurs. Et puis, il y avait des questions qui me posaient problème parce que tout chirurgien, je l'ai été, pour ça que je peux en parler, tout chirurgien est un peu mégalomane, c'est-à-dire qu'il est l'intermédiaire entre la divinité et la chair sanglante. Et la mamie lui embrasse les mains, vous êtes mon sauveur, etc. Et, point de vue narcissique, c'est formidable. Et puis c'est un beau métier, manuellement, c'est élégant, l'anatomie c'est beau, c'est un corps humain, un corps de femme ou un corps d'homme, c'est très beau. Et rentrer dedans, rentrer non plus à la superficie, mais rentrer dedans et travailler avec ça, c'est quand même très réjouissant, si j'ose dire. Mais il y a des gens qui meurent quand même. Vous avez tout fait ce qu'il fallait pour les sauver, en particulier pendant la guerre, les choqués, les grands choqués de guerre. Bah, on fait tout ce qu'il faut, puis ils vivent, puis ils meurent, puis vous ne pouvez rien. Alors là, c'est choquant pour ce mégalomane qui est le chirurgien, qui, son image idéale, l'image idéale qu'il se fait de lui-même, bah, elle s'écroule. Alors c'est vexant. Et pour un type un peu orgueilleux, un type qui voudrait que tout ce qu'il fait soit parfait, là, il y a de l'échec. Je sais bien que l'opération réussit toujours, mais le malade meurt quand même. Alors, je me suis orienté vers des disciplines qui n'étaient plus simplement les lignes d'incision, les façons d'enlever un astragal, un estomac, un utérus ou une vésicule, et j'ai essayé de comprendre pourquoi il mourait. Alors ça m'a amené à faire de la physiologie, puis de la pharmacologie, de la biochimie, etc. Puis, de fil en aiguille, je suis tombé sur des découvertes, effectivement, qui ont m'amené à découvrir des nouvelles méthodes d'analgésie sans utiliser des anesthésiques. Maintenant, on appelle ça la neuroleptanalgésie. Et je suis très heureux parce que ça date de 49 50 à 51. Et je suis très heureux parce que récemment, les Américains ont fait une société mondiale de neuroleptanalgésie. Ça s'appelle la neuroleptanalgésie, maintenant neuroleptique et analgésique. et qu'on m'a demandé d'être président d'honneur, ce qui montre que même 40 ans après, ce qu'on a pu écrire et dire, ça, de temps en temps, pas toujours, ça reste, ça revient sur le... Et ça m'a amené donc à de nouvelles méthodes d'anesthésie qui n'avaient rien à envier aux méthodes anglo-saxonnes, et puis à découvrir des molécules qui agissaient sur le comportement humain alors qu'elles étaient faites pour soigner la maladie de Parkinson ou les crises d'urticaire. Vous voyez, bon, ça n'avait rien à voir de ça avec eux. Mais je me suis aperçu que mes malades préparaient avec ce que j'appelais des cocktails liquides, des mélanges de drogues, mais contenant celles-ci en particulier, ce qu'on appelle les phénothiazines, se désintéressaient de ce qui pouvait leur arriver, donc c'était très agréable pour un chirurgien, on avait les gens très détendus, hein, vigile, qui est capable de répondre aux questions, et un tout petit peu d'anesthésique léger, donc peu toxique, permettait d'avoir une anesthésie chirurgicale correcte. Alors ça m'a posé des problèmes, et en arrivant à Paris, la maison spéciale, s'inspirant de nos travaux, s'est dit, bien, il y a peut-être une molécule dans la même famille qui pourrait avoir une action que je demandais, c'est-à-dire une action psychotrope, agissant sur le comportement, sur le cerveau, sur le fonctionnement cérébral. Et alors on m'a donné le largactyl, et quand j'ai utilisé le largactyl, je me suis rendu compte de ce que ça pouvait apporter, tant sur le plan largactyl, ça veut dire large action, tant sur le plan d'anesthésie, que de l'analgésie obstétricale, que de la psychiatrie. Je me suis dit, puisque, au fond, une agression est peut-être traumatique, elle peut être opératoire, elle peut être aussi bien psychosociale, hein, les agressions de la vie moderne. Alors j'ai demandé aux psychiatres du Val, qui s'appelaient Hamon, Parer et Véluze, de l'utiliser en psychiatrie. J'étais pas très chaud au départ, parce que les psychiatres ne croyaient pas beaucoup à la pharmacologie en 1951-52. Puis finalement, un beau jour, ils se sont décidés. Ils ont eu un très beau succès sur un schizophrène maniaque très, très gravement atteint, qu'ils ont publié à la Société de psychiatrie, enfin la médico-psychologique. Et bon, à partir de ce moment-là, Delay et Deniker à Sainte-Anne, avec un débit beaucoup plus grand, l'ont introduit en psychiatrie. Mais une drogue introduite en psychiatrie au début, et on a dit, oui, c'est l'aborie, puis au bout d'un certain temps, les psychiatres n'ont jamais, dans le monde entier, n'ont pas voulu croire qu'un chirurgien pouvait être à l'origine d'une révolution psychiatrique. Alors, bon, puis alors j'étais pas officiel, en plus je n'avais pas de chair ni de psychiatrie, ni de chirurgie, j'étais un malheureux petit chirurgien des hôpitaux de la marine qui travaillait au Val-de-Grâce, d'accord. Mais ce n'était pas suffisant pour qu'une découverte mondiale puisse sortir d'un tel cerveau. Alors je me suis isolé progressivement, alors il a fallu que me faire disparaître, et ça a été une bagarre. Et puis je me suis rendu compte que c'est pas la peine d'essayer de convaincre des gens qui ne voulaient pas être convaincus. Alors j'ai fui, j'ai eu la chance de pouvoir... grâce à un chirurgien d'ailleurs de l'hôpital Boussicault de l'époque, Talémer, qui a fait une association modèle 1901 sans but lucratif, un peu comme l'Institut Pasteur, d'ailleurs c'est le même statut que l'Institut Pasteur, mais je ne suis pas l'Institut Pasteur bien sûr, et qui a fait construire ce laboratoire dans lequel je travaille depuis 1958, grâce aux dons généreux de la maison Rondepoulenc Spécia, qui pour la chlorpromazine m'a remercié en me construisant ce laboratoire. Mais il fallait que je me débrouille seul.
Bientôt 10h moins le quart sur les antennes de radio, c'est sûrement de la première de radio suisse internationale. Nous rendons hommage, je vous le rappelle, ce matin, à Henri Laborie, le grand neurobiologiste français disparu à l'âge de 80 ans, alors que s'ouvrait le festival de Cannes, qui s'est clos hier soir. Cannes, où Henri Laborie avait inspiré le film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, prix du jury en 1980. Cinéma, neurobiologie, la suite du petit déjeuner que nous avions partagé avec Henri Laborie le 4 octobre 89. Le temps va un peu vite dans ce petit déjeuner. En préparant...
C'est moi qui l'allonge.
En préparant ce rendez-vous, Henri Laborie, en pensant à la communication, aux comportements humains enfin, sur lesquels vous travaillez, j'ai bien sûr retrouvé un certain nombre d'interrogations qui sont les vôtres, qui sont aussi parfois à notre niveau les nôtres, qui m'ont un peu surpris. Il y en a deux, en tout cas, qui m'ont étonné. Vous dites quelque part que vous ne croyez pas à la liberté. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, là, c'est une citation de l'événement du jeudi. Ça me paraît important. En octobre 87, on vous interroge, est-ce que vous croyez aux campagnes, enfin, etc. Est-ce que c'est utile? Vous dites, oui, je fais campagne contre l'énergie atomique sous toutes ses formes. Et puis, plus loin, le tabac. Je ne crois pas que ce soit la cause du cancer. Je fume, dites-vous, à l'événement du jeudi, en octobre 87, depuis l'âge de 14 ans. Le tabac, c'est comme les microbes. Si vous êtes bien dans votre peau, il ne vous fera pas de mal. Vraiment?
Oui et non, c'est-à-dire que je ne pense pas que pour les poumons, les structures cancérigènes qu'il peut y avoir, l'oxyde de carbone et tout ça, ce soit une bonne chose. Ce que je voulais dire, c'est que la nicotine, je l'étudie depuis 40 ans comme moyen, comme outil pharmacologique. Et il y a des récepteurs nicotiniques dans le cerveau, ils ne sont pas par hasard. Et la nicotine est certainement une molécule qui sera de plus en plus utile à l'homme pour lutter contre un certain nombre de maladies du cerveau. Savez-vous que toutes les statistiques mondiales, et américaines donc forcément elles sont vraies, puisqu'elles sont publiées en anglais, montrent que les fumeurs ne font jamais de maladie de Parkinson. Ça s'explique très bien, je n'entre pas dans les détails, mais ça s'explique très bien. Et je pense mettre sur le marché des molécules qui sont très proches de la nicotine dans leur activité pharmacologique et dans le but de lutter contre la sénescence cérébrale du type Alzheimer, par exemple, qui est très préoccupante actuellement, où il y a de plus en plus de vieillards, contre le vieillissement cérébral, donc en général, et contre faciliter la mémoire. Donc, il ne faut pas croire que la nicotine, ça soit quelque chose de mauvais, comme on dit. C'est pas la nicotine. Évidemment, c'est idiot d'avoir dans la main un petit tube en papier avec du tabac dedans, tiré dessus, dans c'est de la fumée. Et je le répète, pour le poumon, c'est certainement une bonne chose. Mais pourquoi? Pourquoi est-on lié à cette cigarette ou au tabac, en quelque forme? Je pense que ce qui était moins dangereux, c'était la chic des vieux marins, vous savez, où chiquait, où il n'y avait pas justement cette absorption de fumée. Mais parce que la nicotine fait sortir au niveau d'un faisceau qu'on peut appeler le faisceau de la récompense, il fait sortir des médiateurs chimiques, qui sont la catécholamine, dopamine et norépinéphrine, enfin vous en foutez, je le comprends très bien, et qui font fonctionner ce faisceau de la récompense. Si bien qu'on mémorise une stratégie qui est celle de fumer, et ensuite on essaie de renouveler ce plaisir, parce qu'on a la mémoire du plaisir qu'on a éprouvé. Et je me demande jusqu'à quel point cette lutte anti-tabac, qui, je le répète, sur le plan pulmonaire en particulier, est certainement pas favorable, pourquoi cette campagne anti-tabac prend cette acuité actuellement. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas très courageux, n'ayant pas un tempérament de parachutiste, ce que je ne le reprocherai pas d'ailleurs, ont eu peur du cancer du poumon. Et alors, entre le plaisir de fumer et la peur d'avoir un cancer du poumon, ils ont cessé de fumer. Et ça, évidemment, ils ne sont pas contents quand ils voient d'autres fumer à côté d'eux, parce qu'ils sont privés d'un plaisir dont les autres ne se sont pas privés. Alors, ils font une campagne pour empêcher tout le monde de fumer. Mais je le répète, la cigarette n'a pas que des défauts, elle a aussi des qualités. Et il faudra bien y revenir à nos qualités de la nicotine un jour ou l'autre.
La liberté, avant de se dire au revoir ce matin, Henri Laborie, tout votre travail, toutes vos recherches visent notamment à libérer l'homme.
Mon avant-dernier livre, j'ai repris comme titre une phrase d'Einstein, « Dieu ne joue pas au dé ». Et je pense que le déterminisme actuellement n'est plus celui de la fin du 19e siècle, où quand il y avait une cause qui produisait un effet. On vit encore sur cette notion-là d'ailleurs, et pratiquement tous les jours, vous voyez des gens qui... Il y a une cause au cancer, une cause aux maladies, une cause, il n'y a pas une. Et c'est tellement complexe que si on ne met pas la notion de ce que j'appelle niveau d'organisation derrière, on n'y comprend pas grand-chose. Donc je pense que, comme Einstein, qui était théiste, remarquez, je pense que la conscience humaine n'est pas la dernière dans le cosmos. Il y a peut-être mieux, possible, j'en sais rien, mais enfin... Et je pense qu'à l'intérieur d'une conscience cosmique qu'on peut imaginer, d'ailleurs moi je ne tiens pas du tout à faire partager mes opinions, mais enfin je ne vois pas pourquoi on pourrait la nier, non plus que l'affirmer. D'ailleurs ça c'est Karl Popper, c'est-à-dire qu'elle n'est pas falsifiable. Vous ne pouvez pas démontrer l'existence ou la non-existence de Dieu. Donc c'est pas une opinion scientifique. Scientifique demande qu'on puisse falsifier le résultat, montrer qu'il est faux. Mais il peut y avoir une conscience cosmique et dans laquelle tout est déterminé. Et à ce moment-là, ce que nous appelons la liberté, c'est la limite de notre ignorance. Quand on est dans des lois, on ne peut pas faire autrement qu'obéir aux lois, quelles qu'elles soient. Mais à partir du moment où on ne connaît pas les lois, et Dieu sait s'il y en a qu'on ne connaît pas, ça alors là, Il y en a beaucoup plus qu'on ne connaît pas que celles qu'on connaît. Et bien à ce moment-là, on se croit libre. Et en fait, on est déterminé. Et figurez-vous que c'est important à dire ça pour la majorité d'un public qui suit ça de très loin. Je les comprends très bien, je comprends très bien ce public qui n'a pas autre chose à faire sans doute. À partir de cette notion qu'on avait d'un déterminisme de causalité linéaire, un peu bêta et simpliste, il y a eu une période où on a vu que, bon, ça, comme avec la cybernétique, que tout se bouclait, que c'était beaucoup plus compliqué qu'on s'en avait l'air. Mais il y a apparu la physique quantique, dans laquelle tout était aléatoire. Et donc, un principe d'incertitude, remarquez, si c'était aléatoire, on pouvait quand même, par une étude statistique, arriver à trouver une probabilité très grande pour certains événements. Donc s'il y avait une probabilité, c'est que ce n'était pas complètement aléatoire. Il y avait quand même un déterminisme derrière. Mais figurez-vous que depuis 2 ou 3 ans maintenant, les physiciens et les mathématiciens arrivent à trouver un déterminisme au chaos. Le chaos qui avait l'air d'être absolument le phénomène aléatoire, on voit maintenant qu'il est entièrement déterminé. Mais il est déterminé par tellement de facteurs, qu'on appelle les attracteurs étranges, qu'on est bien incapable de les mesurer tous et de voir. Alors, ça a l'air d'être indéterminé, et c'est parfaitement déterminé. Et mathématiquement, on arrive à le prouver actuellement dans tous les domaines, aussi bien celui de la physique que de la biologie, de la sociologie, etc. Donc, dire qu'on est libre, c'est le croire, et si ça fait plaisir. Moi, personnellement, j'aime bien, au contraire, savoir que je ne suis pas libre. Que je suis enfermé dans tous mes jugements de valeur, mes automatismes culturels, tout ce qui a peuplé mon cerveau depuis ma naissance, et malgré que je le sache, c'est très difficile d'en sortir. Alors quand on ne le sait pas, voyez ce que ça donne. Mais d'autre part, je pense que la liberté est une chose, c'est un concept dangereux. Dangereux parce que, qu'est-ce qui est libre? C'est le patron ou le cadre supérieur, c'est pas l'ouvrier, il fait qu'obéir, pas libre. Et quand on est libre, on est responsable. Donc si on est responsable d'une réussite, par exemple, hiérarchiquement, vous avancez dans la hiérarchie. Alors vous voyez ce que ça peut donner. Et finalement, les récompenses être libre, à ce moment-là, c'est être parfaitement conforme au milieu social dans lequel vous êtes. Si vous n'êtes pas conforme, à ce moment-là, on dirait que vous êtes paranoïaque ou ce que vous voulez, qu'on vous mettra une étiquette dans le dos et vous baladerez avec elle jusqu'à votre mort. Et à ce moment-là, vous ne serez pas libre. Si vous êtes libre, vous devez réussir dans la vie, dans un système où vous ne pouvez réussir que si vous êtes conforme, donc pas libre. Alors, la dernière chose qui me fait peur dans cette notion de liberté, on a fait mourir des millions, 10 milliards d'hommes sans doute depuis pas mal d'années au cri de liberté, c'est que vous choisissez toujours la vérité, c'est forcé, vous ne pouvez pas choisir l'erreur. Vous la choisissez librement, la vérité. Votre vérité. Comme disait Ionesco, chacun sa vérité. Bon, là encore, il y aurait un très long développement à faire. Mais vous choisissez la vérité librement, mais l'autre, qui n'est pas de votre avis, il choisit l'erreur. Et il choisit librement. Donc s'il choisit librement l'erreur, il faut le tuer. Alors c'est l'Ayatollah Khomeini, c'est tout. C'est toutes les luttes politiques, c'est les tortures, c'est les guerres, c'est les génocides, c'est tout ce que vous voudrez. Toujours au cri de la liberté. Alors, la liberté jusqu'ici, elle a amené simplement à des tueries, pas autre chose. Alors, c'est pour ça que je hais en plus profondément et scientifiquement, je dirais, c'est-à-dire avec un caractère non falsifiable, ou falsifiable du moins, on peut dire qu'elle n'existe pas. À partir du moment où vous ignorez les causes, à ce moment-là, vous dites « je suis libre ». Et Einstein, contre Niels Bohr et contre Planck, disait « Dieu ne joue pas au dé ». Alors que les autres étaient dans l'aléatoire. Alors que maintenant, on revient sur l'aléatoire en disant « il est déterminé ». Bon, alors, vous voyez le genre. Où est la liberté là-dedans? Et surtout, quand vous commencez à comprendre comment fonctionne un cerveau humain, vous vous demandez dans quelle liberté il est. Il est, depuis son enfance, un petit homme est enfermé dans tous ces automatismes, toutes ces lois sociales, finalement. Et il n'est pas libre dans les lois sociales. C'est une prison qui est plus aliénante que toutes les prisons à barreaux.
Henri Laborie, merci d'avoir été notre invité ce matin au petit déjeuner. En un mot, on n'est pas le sentiment tout de même que cette liberté dont vous venez de parler si justement, cette liberté finalement, vous la recherchez, vous la cherchez, vous ne cessez de la chercher.
Non, je vous permettais de terminer.
Oui.
si l'on veut dire que l'imaginaire est la liberté de l'homme d'imaginer une solution nouvelle aux problèmes anciens, je veux bien, mais cet imaginaire, il ne fonctionne que si vous avez une motivation. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'aurez aucune raison d'imaginer quelque chose. Il faut donc que vous soyez motivé, c'est pas libre, vous n'êtes pas libre d'être motivé, vous avez des pulsions, le sein freudien, etc. Ensuite, cette pulsion devra passer à travers le grillage de vos apprentissages culturels, de votre mémoire personnelle et de la mémoire même de tous les hommes qui vous ont précédé et qui est inclus dans votre culture. Donc là en plus, ce qui va sortir de là, c'est pas libre. Et finalement, vous arriverez avec tout cet apprentissage, ces automatismes, vous arriverez à faire fonctionner un imaginaire qui, effectivement, vous permettra dans certains cas de trouver, je le répète, des solutions nouvelles à des problèmes qui très manichéen, c'est-à-dire le blanc, le beau, le laid, le grand, le laid, le beau, le bien, le mal, etc. Et sortir de là par l'imaginaire qui est, si vous voulez, une forme de liberté. Mais je crois qu'il vaut mieux se passer du mot, comme l'égalité aussi. L'égalité des chances à devenir inégale. Alors si vous ne voyez pas le ridicule de la conception, c'est que vraiment, elle est bien engrammée, mais vous la voyez sûrement.